Dr. Dave Mathewson, Littérature du Nouveau Testament. Conférence 2, Hellénisation. Symbole copyright 2024 Dave Mathewson et Ted Hildebrandt. Histoire et littérature du Nouveau Testament par le Dr. David Mathewson. Conférence 2, Histoire et Hellénisation. Très bien, puisque vous êtes déjà silencieux, nous allons commencer, mais commençons par la prière et ensuite nous commencerons à parler du Nouveau Testament. Et j'ai dit que ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est pour cette semaine et peut-être qu'une partie de la semaine prochaine ou la majeure partie de la semaine prochaine serait en quelque sorte de préparer le terrain ou le contexte du Nouveau Testament, en reconnaissant qu'il y avait un certain nombre de facteurs historiques, politiques, il s'est passé beaucoup de choses avant et pendant l'époque du Nouveau Testament qui ont influencé et pris en compte dans la rédaction des documents du Nouveau Testament. Donc, afin de les comprendre pleinement, nous devons esquisser un peu et avoir une petite compréhension de ce qui se passait avant et pendant la production du Nouveau Testament. Encore une fois, il faut comprendre que le Nouveau Testament n'a pas été écrit dans le vide. Les écrivains ne se sont pas assis un jour et comme je le pensais quand j'étais un très jeune garçon, ils ont commencé à rayonner et à se sentir inspirés par l'esprit et ils se sont simplement assis et ont commencé à écrire ces documents, mais au lieu de cela, ils ont écrit dans le cadre de ce flux et reflux. Flux de ces événements historiques, politiques et religieux en cours. Nous devons donc comprendre un peu cela avant de nous lancer dans les documents du Nouveau Testament eux-mêmes, mais commençons par la prière. Père, nous te remercions de nous avoir donné des esprits avec lesquels penser, en particulier des esprits pour penser tes pensées après toi, tes pensées que tu nous as communiquées et ancrées dans ce que nous confessons sont les Écritures, ta parole, qui ont été produites de manière très spécifique. Circonstances historiques et dans une époque et une situation spécifique. Seigneur, aide-nous à en saisir un peu afin que nous puissions avoir une rencontre plus profonde avec ta parole et comprendre plus clairement ce que tu veux encore nous dire aujourd'hui en tant que ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Le premier point de départ est peut-être ce que nous entendons par le mot Nouveau Testament lorsque nous faisons référence à ce groupe ou recueil d'écrits que nous appelons le Nouveau Testament. Que entendons-nous par là? Et cela est en partie lié au fait que lorsque vous et moi entendons le mot testament, qu'est-ce qui nous vient habituellement à l'esprit? La raison en est qu'aujourd'hui, le mot testament est utilisé dans un contexte assez restreint, nous ne l'utilisons donc pas très souvent dans notre vocabulaire quotidien normal, mais lorsque vous l'utilisez ou l'entendez utiliser, qu'est-ce qui vous vient généralement à l'esprit lorsque tu penses au mot testament? La Bible est une chose, mais même dans le langage courant de tous les jours, encore une fois, nous ne l'utilisons pas très souvent, ce qui peut expliquer pourquoi vous rencontrez des problèmes ou certains d'entre vous ne savent peut-être pas trop comment répondre à cette question. En plus du lien avec la Bible, dans quel autre contexte utilisons-nous souvent le mot testament ? Tout comme un témoignage au tribunal, un testament est généralement utilisé aujourd'hui dans un contexte juridique. Par exemple, comme je l'ai dit ici, on entend souvent parler de dernier testament, donc un testament est souvent un document juridique qui stipule la répartition de mes biens, par exemple après mon décès, et donc on vous demande souvent de rédiger un testament ou un testament. Encore une fois, c'est ce que vous voulez qu'il arrive avec vos biens ou vos biens après votre départ de cette vie, et certains ont essayé d'appliquer cela à la façon dont nous comprenons les mots Ancien et Nouveau Testament. Cependant, je pense que nous devons penser au mot testament d'une manière légèrement différente, et c'est la première personne à utiliser le mot Ancien ou Nouveau Testament, même s'il n'a pas utilisé l'anglais. En fait, c'était en latin. La première personne à utiliser l'Ancien et le Nouveau Testament fut un individu nommé Tertullien, qui vécut vers la fin du IIe siècle et jusqu'au IIe siècle. Tertullien a utilisé le mot, a été le premier à utiliser, du moins à notre connaissance, utiliser le mot Ancien et Nouveau Testament pour désigner ce que l'ensemble de documents que nous appelons l'Ancien Testament et l'ensemble de documents que nous appelons le Nouveau Testament. Maintenant, Tertullien, il est important de se rappeler que Tertullien était un individu que nous appelons souvent l'un des premiers pères de l'Église. Vous m'entendrez parler des pères de l'Église de temps en temps. Les pères de l'Église sont un groupe d'individus qui, après les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament, étaient les premiers dirigeants de l'Église qui ont écrit, et nous avons certains de leurs documents ou références à eux dans certains de nos premiers écrits, mais à partir d'à peu près entre 200 et 400 après J.C., à peu près à cette époque, c'est à l'époque où ces individus comme Tertullien vivaient, et ils écrivaient et disaient souvent des choses très précieuses pour nous aider à comprendre le Nouveau Testament et comment il le comprenait, mais Tertullien était l'un des premiers à faire référence au Nouveau Testament avec le titre Nouveau Testament. Cependant, le mot testament ne fait pas vraiment référence à notre contexte juridique du testament et du testament, mais vient d'un mot latin, testamentum, qui était censé traduire un mot grec qui ressemble à ceci. Vous n'avez pas besoin d'être capable de l'écrire ou de le reconnaître, mais je l'ai simplement écrit pour que vous puissiez le voir. Mais ce mot diathèque, qui signifie en réalité alliance, est utilisé principalement dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament pour désigner une alliance. Si vous avez déjà étudié l'Ancien Testament, j'espère que vous avez appris les différentes alliances, l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse, l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, avec David, une alliance étant un accord que Dieu conclut ou une relation qu'il entre avec ses sujets, avec son peuple, de sorte que lorsque nous pensons au Nouveau Testament, nous pensons principalement au mot testament en termes de mot alliance, de sorte que par Nouveau Testament nous entendons un groupe d'écrits qui témoignent de la nouvelle alliance de Dieu relation avec son peuple établie par Jésus-Christ. L'Ancien Testament se termine, je veux aussi parler un peu de ce terme, en particulier de l'Ancien et du Nouveau, mais l'Ancien Testament se termine par l'anticipation ou l'attente qu'un jour Dieu établira une nouvelle alliance, contrairement à l'ancienne alliance qu'il a établie sous Moïse, Dieu établirait une nouvelle alliance avec son peuple. Le Nouveau Testament est convaincu qu'avec la venue de Jésus-Christ, cette nouvelle alliance a déjà été établie, ce nouvel arrangement par lequel Dieu assure le salut de son peuple, cette nouvelle alliance a déjà été inaugurée à travers la personne de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous parlons du Nouveau Testament, nous entendons cet ensemble d'écrits qui témoignent de cette nouvelle relation d'alliance établie et accomplie dans la personne de Jésus-Christ. Ainsi, par Nouveau Testament, nous n'entendons pas la dernière volonté de Dieu et son testament avec son peuple, nous entendons les écrits qui témoignent de l'alliance, la nouvelle alliance qui a été promise dans l'Ancien Testament mais qui s'est maintenant accomplie en Christ. Les documents qui en témoignent historiquement et théologiquement sont ces écrits que nous appelons le Nouveau Testament. Maintenant, cela soulève également la question, qu'y a-t-il de si vieux dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y a de si nouveau dans le Nouveau Testament, ou ces mots sont-ils même appropriés? Dans un sens, il y a eu une tendance ces dernières années à trouver une terminologie différente parce que l'Ancien et le Nouveau semblent, qualifier une partie de la Bible d'ancienne semble être une étiquette plutôt péjorative. Cela semble suggérer quelque chose qui est usé ou démodé ou qui n'est plus utile ou peut-être même pire, une erreur qui doit être corrigée par quelque chose de bien meilleur. Ainsi, parfois, l'Ancien et le Nouveau peuvent véhiculer de manière péjorative un sens négatif et un sens positif du Nouveau. Certains ont suggéré que nous devrions l'appeler le Premier et le Deuxième Testament, le Premier Testament étant les livres que vous étudiez dans le cadre de l'enquête sur l'Ancien Testament, et cela peut être préférable. Je vais m'en tenir à la terminologie Ancien et Nouveau Testament simplement parce qu'elle est si courante et que la plupart d'entre nous l'ont entendue dans ces termes. Mais je veux que vous soyez clair, lorsque nous comprenons la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il ne faut pas la comprendre en termes de négatif et de positif ou d'inférieur et de supérieur ou d'usé et de meilleur et de plus récent, mais plutôt en termes de négatif et de positif. Compris en termes de promesses et d'accomplissement. L'Ancien Testament est considéré comme ce qui anticipe le point culminant et l'accomplissement qui surviennent maintenant dans la personne de Jésus-Christ. Ainsi, le Nouveau Testament doit être considéré comme l'accomplissement ultime et le point culminant de la révélation de Dieu déjà commencée et anticipée dans les écrits de l'Ancien Testament. Par exemple, les deux premiers versets, voyons, les deux premiers versets du livre des Hébreux dans votre Nouveau Testament capturent cette idée lorsqu'il dit, le livre commence ainsi, il y a longtemps, Dieu a parlé à nos ancêtres de manières nombreuses et diverses voix par les prophètes. une référence à Dieu se révélant sous les Écritures de l'Ancienne Alliance lorsqu'il s'est révélé à Israël, ce groupe d'écrits qui témoigne de la révélation de Dieu sous l'Ancienne Alliance avec Israël sur lequel vous vous êtes concentré dans l'étude de l'Ancien Testament. Mais ensuite Hébreux continue et dit, « Mais dans ces derniers jours, les derniers jours étant maintenant, maintenant que l'accomplissement est arrivé, les jours, le temps indiqué par l'Ancien Testament. Or, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son Fils. » En d'autres termes, la révélation de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ atteint son accomplissement et son point culminant. Dieu, oui, Dieu s'est révélé dans les Écritures de l'Ancien Testament, mais cela trouve son point culminant et son accomplissement ultime dans le fait que Dieu se révèle maintenant dans ses Écritures de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Il est donc important de comprendre que le Nouveau Testament ne doit pas être considéré comme inférieur, amélioré ou mis à jour et que l'Ancien est dépassé et démodé, mais qu'il s'agit plutôt d'une simple question d'accomplissement ou de promesse et d'accomplissement. L'Ancien Testament anticipe et promet qu'un jour Dieu établira finalement sa relation d'alliance avec son peuple. Maintenant que Jésus-Christ entre en scène, il provoque cet accomplissement et les écrits du Nouveau Testament témoignent de cet accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. C'est donc ce que nous entendons par testament. C'est ce que nous entendons, ou du moins ce que j'entends par Ancien et Nouveau Testament. Encore une fois, ce n'est pas le dernier testament, mais le testament en termes d'alliance, l'alliance de Dieu, l'arrangement, l'accord, la relation qu'il entre avec son peuple, c'est ce que nous entendons par alliance. Et puis par nouvelle alliance, nous entendons ces documents qui témoignent de la révélation de Dieu de lui-même, de la plénitude culminante de sa révélation de lui-même à travers Jésus-Christ. Et les documents qui en témoignent sont ce que nous appelons le Nouveau Testament. D'accord. La chose suivante, eh bien, tout d'abord, des questions sur la façon dont nous comprenons ou ce que j'entends par testament, ce que nous entendons par Nouveau Testament. J'espère que certains de ces éléments sont familiers dans votre cours d'enquête sur l'Ancien Testament, mais je veux juste m'assurer que nous comprenons. Ce que cela signifie, je pensais que lorsque je me suis intéressé aux études bibliques, je pensais que parce que je m'intéressais au Nouveau Testament, ma tâche serait plus facile. Parce que si vous regardez l'Ancien et le Nouveau Testament ne représente qu'une très petite partie de la Bible entière en comparaison. Cependant, comme le Nouveau Testament est l'accomplissement et le point culminant de l'Ancien, j'ai vite découvert que je suis responsable de bien plus que le Nouveau Testament, mais que je suis également responsable de l'Ancien et du Nouveau. Parce que le Nouveau Testament, en accomplissant et l'Ancien, l'assume et en assume la compréhension. Très souvent, nous reviendrons à l'Ancien Testament pour démontrer comment certains documents du Nouveau Testament assument ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, montrant comment cela s'accomplit et atteint son paroxysme dans la personne de Jésus-Christ. La deuxième chose à dire en guise de simple aperçu du Nouveau Testament est que le Nouveau Testament, et j'espère que pour la plupart d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous avez compris cela au moins de manière générale, et c'est le Nouveau Testament qui est organisé principalement non pas chronologiquement, mais il est organisé logiquement. Autrement dit, le livre de Matthieu n'est pas le premier livre écrit dans le Nouveau Testament. Cette place de choix revient soit à Jacques, soit à un Thessalonicien, à mon avis. Nous en reparlerons plus tard. Matthieu n'était pas le premier livre écrit. Cela n'a pas été écrit avant Marc. Il n'a probablement même pas été écrit avant Romains et un certain nombre d'autres livres écrits par Paul. Au lieu de cela, le Nouveau Testament est organisé plus logiquement que chronologiquement. Et encore une fois, je veux dire que ce n'est pas organisé selon l'ordre dans lequel les livres ont été écrits. Au lieu de cela, il y a une logique dans la manière dont le Nouveau Testament est rédigé. Même les lettres de Paul, qui constituent la majeure partie du Nouveau Testament, ont tendance à être classées davantage en fonction de leur longueur. Pas entièrement, mais généralement, les lettres de Paul sont classées, encore une fois, non pas dans l'ordre dans lequel il les a écrites, mais essentiellement par ordre de longueur. Ainsi, Romains est le premier. Quand vous arrivez aux lettres de Paul, vous trouvez les Romains en premier parce que c'est la plus longue. Au lieu de cela, encore une fois, le Nouveau Testament est classé chronologiquement. Oh, au fait, ce n'est qu'une image d'un manuscrit grec ancien. cela ressemblerait à peu près à ce que les auteurs du Nouveau Testament auraient réellement écrit. Vous ne voyez pas très bien cela, certains d'entre vous. C'est le début de l'évangile de Jean. C'est Jean 1. Il s'agit d'un manuscrit ancien qui date du 3e ou 4e siècle environ, il est donc assez ancien. Vous remarquerez que si vous regardez cela de plus près, vous verrez que c'est en colonnes, et qu'il y a des notations dans les colonnes, comme les divisions de paragraphes et d'autres choses. Mais en général, vous remarquez deux ou trois choses. Il y a en fait trois choses que vous remarquez dans le texte ancien du Nouveau Testament. L'une des raisons pour lesquelles je vous montre cela est que cela vous permet d'apprécier les traductions du Nouveau Testament dont vous disposez. La première chose est que les manuscrits originaux de ces manuscrits plus anciens auraient été entièrement écrits en lettres majuscules. Ils n'écrivaient pas en cursive. Il n'y avait pas de petites lettres à ce stade. Au moins, ce n'était pas courant de les utiliser. Et donc, à bien y regarder, tout est écrit en majuscules. C'est ce qu'on appelle un manuscrit décelé si cela vous intéresse, mais cela ne fera pas partie d'un test ou quoi que ce soit. Ce ne sera pas le cas non plus. C'est juste pour vous intéresser principalement. Mais c'est entièrement écrit en majuscules. L'autre chose que vous remarquez à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de division de mots. Je ne sais pas si c'était le cas, peut-être que le professeur Hildebrandt pourra nous le dire, mais si c'était pour gagner de la place ou si c'était simplement la façon dont ils ont écrit. Mais il n'y avait aucune division entre les mots ou les lettres. Tout s'est déroulé comme prévu. La troisième chose est qu'il n'y avait pratiquement aucune ponctuation, pas de points, de virgules ou de points d'interrogation. Cela démontre simplement le travail qui a été effectué pour vous fournir une traduction en anglais. Parce que la plupart du temps, ce avec quoi ils ont dû travailler ressemble à ceci. Mais encore une fois, il s'agit d'un très vieux manuscrit ancien témoignant, celui-ci, de l'évangile de Jean. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous n'avons pas d'original, nous n'avons pas le document original de John, mais nous en avons un certain nombre de copies. Celui-ci est très ancien et de très grande qualité et témoigne de l'écriture de John. Cela ressemble donc un peu à ce à quoi auraient ressemblé les documents du Nouveau Testament. Mais revenons donc à la disposition du Nouveau Testament. Tout d'abord, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, viennent naturellement en premier pour deux raisons. Premièrement, ils constituent un pont naturel entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et deuxièmement, parce qu'ils racontent la vie du fondateur du christianisme, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, qui réalise toutes les attentes et promesses de l'Ancien Testament. Ainsi, étant donné que le sujet et le contenu principaux des évangiles sont Jésus-Christ, et que les évangiles constituent un pont naturel entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ils viennent logiquement en premier, même si certains d'entre eux ont été écrits plus tard que d'autres documents. Ainsi, Matthieu, Marc, Luc et Jean viennent logiquement et naturellement en premier dans notre Nouveau Testament. Le livre des Actes vient logiquement ensuite dans la mesure où il démontre comment ce mouvement de Jésus, comment ce mouvement que nous appelons christianisme commencé par Jésus, commence maintenant à s'étendre au-delà des limites étroites de Jérusalem et de la Judée pour finalement embrasser le monde grec plus vaste du monde. Premier siècle. Ainsi, les Actes sont encore une fois une sorte de conclusion naturelle de l'Évangile ou viennent logiquement et naturellement après l'Évangile. Et puis il raconte comment les événements des évangiles et les événements entourant le ministère de Jésus, sa vie et sa mort, comment cela a commencé à se propager et à affecter la région bien plus grande que Jérusalem et les limites étroites de Palestine. Comment a-t-elle fini par embrasser l'ensemble du monde habité du premier siècle? Vous pouvez également voir à quel point le Nouveau Testament est logique dans ses actes, nous en reparlerons plus tard lorsque nous aborderons ces livres, mais l'un des évangiles, le troisième évangile, Luc, comme certains d'entre vous le savent probablement, faisait en fait partie d'un ouvrage en deux volumes avec actes. Luc et les actes étaient à l'origine deux volumes qui allaient ensemble, mais logiquement, ils ont été séparés de sorte que Luc accompagne ensuite les autres livres auxquels ils ressemblent, Matthieu, Marc et Jean. Puis les actes fournissent une sorte de transition naturelle vers la description. Comment les événements des évangiles commencent maintenant à se propager et à prendre effet dans le monde au sens large? Maintenant, le livre des Actes vous présente une sorte de récit historique sur la propagation de l'Église primitive, l'Évangile des Actes vous présente des personnages très importants, des dirigeants chrétiens des premiers temps très importants. Comme Pierre et Jacques, et l'un d'eux est un homme, un pharisien converti, en fait un terroriste converti du 1er siècle, qui s'est converti au christianisme, dont le nom était Saul et son nom devient Paul, et il est responsable d'une grande partie de le Nouveau Testament. Il est donc naturel que l'un des personnages qui joue un rôle dominant dans les Actes joue ensuite, ses lettres jouent un rôle clé dans la section suivante du Nouveau Testament. Ainsi, après les Actes, nous trouvons les lettres de l'un des personnages principaux du livre des Actes, les lettres de Paul, en commençant par les Romains et en passant par un petit livre appelé Philémon. Les lettres de Paul sont un groupe de lettres qui sont souvent appelées lettres générales ou épîtres générales, qui relatant simplement les lettres d'autres grands dirigeants chrétiens qui ont été présentés dans le livre des Actes, comme Pierre et Jacques ont été présentés à d'autres personnages principaux de Actes, et nous trouvons leurs lettres incluses dans le Nouveau Testament également après celles de Paul. Et enfin, le livre de l'Apocalypse, s'il existe peut-être, il y a probablement un certain nombre de raisons pour lesquelles il se trouve à la fin du Nouveau Testament, mais logiquement, il correspond certainement au livre qui raconte le point culminant ou le but de l'histoire, le point culminant de l'histoire. Du plan rédempteur de Dieu visant à sauver le cosmos tout entier, l'Apocalypse joue un rôle approprié à la fin du Nouveau Testament. Apocalypse, l'autre livre est peut-être l'Évangile de Jean, mais l'Évangile de Jean ou l'Apocalypse prétendrait probablement être le tout dernier livre du Nouveau Testament écrit très près de la fin du 1er siècle. Mais encore une fois, comme vous pouvez le constater, le Nouveau Testament a une logique dans la façon dont il est organisé. Il n'est pas organisé selon l'ordre dans lequel le livre est écrit, mais semble révéler une sorte de logique dans la façon dont il est construit. Très bien. Parlons un peu de, eh bien, comment tout cela est-il arrivé? Que s'est-il passé avant et pendant la rédaction du Nouveau Testament? Comme nous l'avons dit, le Nouveau Testament n'est pas simplement sorti de rien, créé ex nihilo, ni, il aurait certainement été plus simple si Dieu avait simplement laissé tomber du ciel une liste de ce qu'il était comme il le voulait. Des gens à qui réfléchir et croire. Mais au lieu de cela, Dieu a choisi de se révéler à travers des événements et des circonstances très historiques, dans une culture et un lieu très spécifiques, et dans une langue très spécifique. Et donc, cela nous aidera à comprendre un peu cela, ou nous aidera à comprendre, je pense, davantage le Nouveau Testament si nous comprenons un peu la situation et les circonstances qui l'ont produit. Et encore une fois, à ce stade, je veux seulement peindre de larges coups de pinceau. Au moins pour moi, je trouve l'histoire de l'époque du Nouveau Testament, du monde gréco-romain et du monde juif de l'époque très fascinante, mais je me rends compte que beaucoup d'entre vous ne le sont peut-être pas, c'est pourquoi je veux principalement transmettre ou peindre coup de pinceau très large. Que se passait-il politiquement, historiquement, culturellement, religieusement? Quels ont été les mouvements, événements ou caractéristiques principaux et dominants qui constituent la toile de fond et qui, à mon avis, sont essentiels que vous compreniez pour comprendre le Nouveau Testament plus en profondeur? Tout d'abord, regardons le climat politique. Que se passait-il politiquement avant et y compris l'époque du Nouveau Testament? Encore une fois, dans vos notes que j'ai sur Blackboard, j'ai énuméré un certain nombre, encore une fois, de manière très générale, un certain nombre de caractéristiques clés. Le premier point de départ pour comprendre le climat politique, est de comprendre l'émergence d'un grand général. Et par là, je pense à un individu nommé Alexandre le Grand. Et ils ont découvert, lors de fouilles archéologiques, qu'il avait des appareils photo Kodak, et c'est exactement à quoi il ressemblait. Il y a Alexandre le Grand. Qui sait à quoi il ressemblait? Quoi qu'il en soit, il s'agit ici d'un buste et d'une figure d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était connu pour avoir commencé vers 336 avant J.C., nous sommes donc environ 330 ans avant la naissance et l'émergence de Jésus-Christ sur la scène de l'histoire. Ainsi, environ 330 ans auparavant, un homme nommé Alexandre le Grand avait repris le royaume de son père. Et pendant environ 10 ans, une période de 10 ans, Alexandre prend tout simplement le monde d'assaut. Et il agrandit réellement le royaume de son père. Alexandre le Grand a étendu ce royaume pour couvrir un territoire plus vaste que tout ce qui était connu auparavant. Ainsi, Alexandre le Grand est l'un des dirigeants les plus importants de l'époque. Ensuite, cela vous montre que ce n'est pas le meilleur graphique, mais ce serait Jérusalem comme ici. C'est la mer Méditerranée. Voici Jérusalem. C'est la Turquie d'aujourd'hui, l'Asie mineure. Ici en Grèce. Rome et l'Italie seraient par ici. Ici, c'est l'Égypte, donc vous avez en quelque sorte une idée. Cette ligne pointillée vous montre approximativement l'étendue du royaume d'Alexandre, qui était assez important à cette époque. Et une chose que vous remarquez, c'est que la terre de Palestine, Jérusalem, cette région relève bien du règne d'Alexandre le Grand. Il s'est donc lancé dans cette grande campagne militaire et a conquis un royaume et l'a étendu encore plus loin que son père ne l'avait élargi. Alexandre était connu pour être un brillant stratège militaire. Alexandre a fait une chose très importante, et vous devez connaître ce terme, et le terme que vous devez connaître est hellénisation. Hélina, attends, hellénisation. Hellénisation. L'hellénisation fait référence à la diffusion de la langue et de la culture grecque, et c'est ce qu'a fait Alexandre. Encore une fois, cela vient du mot grec réalis, qui signifie grec, et l'hellénisation fait référence à l'expansion et à la diffusion de la langue et de la culture grecque. Ainsi, dans tout cet empire, l'un des moyens de l'unifier était de diffuser la culture, la religion et la langue grecque dans tout l'empire. Ainsi, pratiquement rien, y compris Jérusalem et la demeure du peuple de Dieu, les Juifs, n'a échappé à l'influence de l'hellénisation. Rien n'a échappé à l'influence de la culture grecque et de la langue grecque à cette époque. En fait, l'une des implications de ceci est que, peu de temps après, il y avait une traduction de l'Ancien Testament appelée la Septante. Il s'agit essentiellement de la traduction grecque de l'Ancien Testament, et l'une des principales raisons était que plus les gens parlaient grec, plus il y avait besoin d'une traduction grecque de l'Ancien Testament, qui, comme vous le savez, venant, espérons-le, de la classe de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament. Le testament a été écrit à l'origine en hébreu, avec quelques sections d'araméen, mais avec la propagation de l'hellénisme et de la langue et de la culture grecque, une traduction en grec s'est également avérée nécessaire. Au moins, c'est en partie la raison. Ainsi, Alexandre est connu pour avoir étendu un empire, encore une fois, un grand empire, le plus grand, en fait depuis, par exemple, l'empire perse sous lequel les Juifs se sont retrouvés, vous trouvez que dans un livre comme Daniel et l'Ancien Testament, etc. Maintenant, à la mort d'Alexandre, Alexandre construit à nouveau ce grand empire. À sa mort, Alexandre n'a jamais eu d'héritier de son empire ni personne à qui le léguer ou le donner. Et ainsi, à la mort d'Alexandre, encore une fois, nous sommes encore environ 320 ans avant le Christ, à peu près, avant que le Christ n'entre en scène. Pendant ce temps, après la mort d'Alexandre, une lutte éclate entre certains de ses généraux, par exemple pour savoir qui héritera de ce royaume. Fondamentalement, cela se résume à une lutte pour le pouvoir entre deux groupes ou deux généraux, et c'est ce qu'on appelle les Séleucides et les Ptolémées. Les Séleucides, est-ce simple? Tout ce qu'il faut savoir, encore une fois, j'essaie de simplifier les choses, les Séleucides seraient le groupe qui résidait au nord de Jérusalem en terre de Syrie. Donc encore une fois, si je peux revenir à cette carte, vous verrez ici la Syrie, ce serait la zone des Séleucides. Les Ptolémées, le groupe suivant, sont en Égypte, au sud. Donc, pour revenir à cette diapositive, vous avez les Séleucides en Syrie au nord de Jérusalem, en terre de Palestine, puis vous avez les Ptolémées en Égypte, au sud. Maintenant, depuis un certain temps, les Israélites, et rappelez-vous, le peuple de Dieu, les Israélites, semblent s'être retrouvés à une époque après l'autre sous une domination et un règne étranger, et ce n'est pas différent. Maintenant qu'Alexandre meurt, il se retrouve tout d'abord sous le règne des Ptolémées en Égypte. Encore une fois, ce sont les deux puissances de l'époque, les Ptolémées et les Séleucides. Ainsi, tout d'abord, Israël se retrouve sous la domination des Ptolémées venus d'Égypte. Dans l'ensemble, ce fut une bonne expérience. Israël jouissait d'une paix substantielle, et les choses n'étaient pas, vous savez, des choses très faciles pour eux sous le règne de Ptolémée. Cependant, plus tard, le pouvoir est passé aux Séleucides, et les choses n'étaient pas aussi faciles sous la domination séleucide. Israël s'est donc retrouvé entre le nord et le sud et s'est retrouvé maintenant ballotté. Alors maintenant, ils sont sous le règne des Séleucides, ce qui n'était pas aussi paisible et pas vraiment une expérience aussi agréable. Cependant, sous le règne des Séleucides, cette situation atteint son paroxysme. Encore une fois, les Séleucides ne traitèrent pas aussi bien les Israélites, et en particulier l'un des dirigeants, un individu que nous appelons Antiochus Épiphane IV. Il a noté dans vos livres, ou dans votre note, la crise sous Antiochus Épiphane. Entre 175 et 63 avenue JC, Antiochus Épiphane et les Séleucides régnèrent. Antiochus Épiphane est, encore une fois, l'un des Séleucides, connu pour se rendre à Jérusalem. Une fois, il entra et pilla le temple, prit tout l'or et toutes les richesses et massacra un certain nombre de Juifs. Et puis plus tard, il y est retourné, et c'est là qu'il a complètement détruit et profané le temple. Alors, il entra et détruisit le temple comme le raconte la légende. Il a abattu un cochon à l'autel. Il renomma le temple d'après le dieu Zeus, le dieu grec Zeus, souillait le temple du dieu d'Israël et détruisit tout. Et encore une fois, c'était en quelque sorte le summum ou le point culminant de la domination séleucide sur Israël. Maintenant, cela a duré un petit moment jusqu'à ce que, encore une fois, je ne vais pas être très précis avec les dates ou quelque chose comme ça à ce stade, mais cela a duré un petit moment jusqu'à ce qu'un individu nommé Judas Maccabée, vous voyez le référence au Maccabée dans vos notes, Judas Maccabée, fils d'un grand prêtre, a mené une série de révoltes contre les Séleucides pour tenter de les faire sortir de Jérusalem. Encore une fois, vous devez vous rappeler qu'ils sont le peuple de Dieu, les Juifs, et que ceci est leur temple où Dieu demeure avec eux. C'est un espace sacré. C'est la ville sainte. Et maintenant, vous avez un groupe d'étrangers qui sont entrés et l'ont profané. Ils l'ont pillé. Ils l'ont profané en le renommant du nom d'un dieu païen étranger. Et maintenant, Judas Maccabée mène une sorte d'effort pour libérer le temple des Séleucides. Et c'est exactement ce qu'il a pu faire. Judas Maccabée et son groupe libérèrent finalement Jérusalem et le temple du contrôle des Séleucides. Pendant une très courte période, pendant environ 80 ans, Israël a joui d'une liberté face à l'oppression et à la domination étrangère. Et cela jusqu'à ce que la prochaine grande puissance mondiale apparaisse. Nous en parlerons dans un instant. Mais l'autre chose que vous savez probablement à propos de Judas Maccabée, c'est que lors de la libération du temple, les Juifs ont consacré à nouveau le temple et ont en fait établi une cérémonie de dédicace que les Juifs célèbrent encore aujourd'hui. Oui, Hanouka est la fête qui célèbre la liberté, la reconsécration et la répurification du temple. Et il y a une légende et une tradition autour de ce qui s'est passé à cette époque. Ainsi, depuis 80 ans, environ 80 ans, Israël jouit d'une certaine liberté jusqu'au prochain empire. Et dans vos notes, le prochain empire mondial émerge était les Romains. Pendant tout ce temps, pendant une grande partie de cette période, Rome commençait en fait à se profiler à l'horizon. Et en 63 avant JC, je suis désolé, 63, puis la prochaine puissance mondiale prend le relais, et ce sont les Romains. Et en fait, pendant tout le reste de la période du Nouveau Testament et pendant un certain temps encore, Israël se retrouverait sous la domination des Romains. Ainsi, tout le Nouveau Testament est écrit au peuple de Dieu vivant dans des régions sous domination romaine. Ainsi, Rome, cette puissance mondiale montante, commence en fait à étendre encore plus son royaume. Vous remarquerez que cette ligne rouge démontre en quelque sorte l'étendue de la domination romaine au premier siècle. Encore une fois, juste pour vous situer ici, Jérusalem serait juste ici. Voici la Turquie, l'Asie mineure et la Grèce d'aujourd'hui. Il y a l'Italie et Rome. L'Espagne, ici en Égypte. Et donc, cette ligne rouge, vous pouvez voir l'étendue s'étendant presque jusqu'à l'Angleterre et l'Écosse d'aujourd'hui. L'étendue de la domination romaine, à la fin du 1er siècle, ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu auparavant. Ainsi, une fois de plus, personne, pratiquement personne vivant dans cette région n'a échappé aux effets de la domination romaine, y compris Jérusalem et la Palestine, la terre du peuple de Dieu. et nous commencerons à voir, notamment avec les lettres de Paul, presque toutes les lettres qu'il adresse, la plupart d'entre elles sont adressées à des villes de l'Asie mineure actuelle, qui est en quelque sorte le foyer de la domination romaine, l'un des foyers de la domination romaine. Règle. Ainsi, nulle part le peuple de Dieu ne pouvait vivre sans être affecté par la domination romaine. Maintenant, c'est une des choses que les Romains faisaient, et encore une fois, j'essaie d'être très, très simple avec ça. L'une des choses qu'ils ont faites, pour administrer un si grand territoire, voici Rome, pour administrer un si grand territoire, Rome l'a divisé en provinces et avait différentes manières de gouverner ou de gouverner ces différentes provinces. Et l'un des moyens par lesquels ils pouvaient y parvenir, l'un des moyens par lesquels ils gouvernaient certaines provinces, était de recourir à ce qu'on appelait un roi client. Autrement dit, il semble que Rome, en fonction de la facilité avec laquelle ils y parvenaient, ou de la facilité avec laquelle les gens cédaient ou se soumettaient à la domination romaine, influençait parfois la manière dont Rome la gouvernait. Donc, si une certaine zone de leur royaume, une certaine zone, résistait et se battait, alors évidemment Rome allait mettre en œuvre des mesures plus strictes. Cependant, dans d'autres régions, où l'avènement aurait pu se faire plus discrètement et plus facilement, ils ont parfois été autorisés à nommer des dirigeants autochtones sur leur propre pays, à condition qu'ils se conforment aux exigences de Rome. Ils avaient un peu plus de marge de manœuvre. On les appelait souvent les rois des clients. Nous parlerons de l'un de ces rois clients dans un instant, mais des trois choses sur lesquelles je vais me concentrer en ce qui concerne les effets de la domination romaine. Et d'ailleurs, la plupart des gens du 1er siècle auraient considéré la domination romaine, pour beaucoup, comme une bonne chose. Mais quels ont été certains des effets de la domination romaine? Tout d'abord, il existait désormais une langue commune qui unissait tout l'Empire. Cela inclut, je remonte aussi en quelque sorte à Alexandre le Grand, mais maintenant avec l'exploit d'Alexandre le Grand et maintenant avec la domination romaine, il existe une langue commune qui unit tout l'Empire, et c'est le grec. Beaucoup de gens à cette époque étaient trilingues, parlaient probablement le latin et le grec, et au moins pour les juifs, beaucoup d'entre eux parlaient l'hébreu, le grec et l'araméen. Je pense que Jésus était probablement trilingue. Il parlait probablement aussi l'hébreu, l'araméen et le grec. Mais avec l'expansion de l'Empire d'Alexandre, puis de l'Empire romain qui a suivi, l'Empire tout entier était désormais uni par une langue commune. C'est la langue du commerce et des conversations quotidiennes, et c'était le grec. Le deuxième produit, en particulier de ce phénomène de propagation de la domination romaine, est ce que certains appellent la Pax Romaine, ou la paix de Rome. En d'autres termes, Rome, tant que vous respectiez la domination romaine, Rome, l'un des avantages était que Rome vous promettait la liberté et la paix et l'absence de conflits et de guerres. Il y avait donc beaucoup en jeu à se conformer à Rome au 1er siècle, et en échange de votre obéissance, Rome offrirait les avantages de la paix, de la protection et de l'absence de guerre. La troisième chose était un système de transport et de communication avancé. Avec la propagation de la domination romaine, la communication et le transport étaient désormais possibles comme jamais auparavant. Voilà donc trois des avantages. Je ne pense pas que nous pourrions beaucoup parler de la façon dont cela pourrait affecter la façon dont nous comprenons certaines parties du Nouveau Testament, et peut-être que nous le ferons lorsque nous examinerons certains des documents du Nouveau Testament eux-mêmes. Mais je tiens à souligner ces trois avantages de la domination romaine. Une langue commune unissait désormais l'Empire, la Pax Romaine, la promesse de paix, l'absence de guerre, la protection sous la domination romaine si vous vous y conformiez, et enfin les transports et les communications avancées grâce à l'Empire romain. Maintenant, j'ai dit que l'une des façons dont Rome régnait sur ses vastes territoires et provinces était par l'intermédiaire de rois clients. Encore une fois, c'est particulièrement vrai pour certaines parties du royaume. Lorsque Rome a commencé à étendre sa domination et à annexer divers pays et lieux géographiques, encore une fois, s'ils venaient tranquillement et ne se battaient pas, et en fonction d'autres circonstances, ils étaient souvent autorisés, encore une fois, avec la permission de la domination romaine, tant que cela respectait la domination romaine, ils seraient autorisés à nommer leurs propres dirigeants. Et l'un de ces rois clients dont j'ai parlé dans votre note comme étant un roi cruel, cet homme s'appelait Hérode le Grand. Vous avez lu quelque chose sur Hérode le Grand. Vous avez entendu parler d'Hérode en tant que roi qui régnait sur la terre de Palestine pendant, en fait, les événements qui ont conduit à la naissance de Jésus. Hérode était un roi client qui, encore une fois, régnait sur la Judée lors de la naissance de Jésus-Christ. Vous avez entendu parler de lui dans les évangiles. Et Hérode était connu, Hérode faisait partie de ces personnes qui étaient connues, comme leur nom l'indique dans vos notes, comme étant un roi cruel. Hérode faisait partie de ces personnes connues pour être une sorte de farfelu. Il l'était lorsque vous lisez des histoires sur lui et sur d'autres écrivains anciens, les histoires sont très cohérentes avec ce que nous savons de lui dans les évangiles. Une histoire raconte que Hérode était tout à fait disposé à mettre à mort des gens, même si, peu importe à quel point ils étaient proches de lui, s'il soupçonnait qu'ils représentaient une menace pour son trône, il les ferait mettre à mort. Une histoire raconte qu'une fois, Hérode a eu vent de quelqu'un dans son propre groupe de camarades, il a eu vent que cette personne allait essayer d'usurper son trône. Alors, Hérode a organisé une soirée au bord de la piscine et a invité tous ces gens. Et avec tous ces gens autour, il a demandé à quelques-uns de ses hommes de noyer ce type dans la piscine alors que personne ne le regardait parce qu'il soupçonnait qu'il allait prendre son trône. Ainsi, les actions d'Hérode dans Matthieu 2 ne sont vraiment pas hors de propos. Quand nous lisons que Hérode a mis à mort tous les bébés garçons de Jérusalem, ou Bethléem, âgés de 2 ans et moins, ce qui n'aurait pas été très nombreux, probablement moins d'une douzaine, étant donné la taille de Bethléem à cette époque, mais ces actions ne sont pas en contradiction avec ce que nous savons d'Hérode ailleurs. Hérode était connu pour ses lourdes taxes sur le peuple juif, et principalement pour financer ses projets de construction, comme le temple qu'il a construit à Jérusalem. Hérode était donc l'un de ces rois clients qui régnaient sur la Judée à l'époque de la domination romaine. Ce fut une période critique pour le peuple de Dieu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, avec la propagation de la domination romaine, plusieurs choses intéressantes se produisaient. Premièrement, tant que les chrétiens du 1er siècle ont pu être considérés comme une simple version du judaïsme, de la religion juive, ils ont été tolérés. Pour l'essentiel, malgré de nombreuses histoires que nous entendons, il y a eu une persécution assez intense sous Néron, l'un des empereurs romains. Vous savez, vous entendez certaines histoires de chrétiens traînés dans les rues, décapités et emmenés dans des arènes où ils ont été déchiquetés par des animaux. En réalité, c'était assez rare au 1er siècle. En outre, sporadiquement, et cela se produisait occasionnellement, la plupart du temps, Rome se contentait de laisser les chrétiens tranquilles, surtout tant qu'ils étaient considérés comme une simple religion juive parmi d'autres, à l'instar du judaïsme de l'Ancien Testament. Les problèmes ont commencé lorsqu'ils ont commencé à s'en séparer ou à soupçonner qu'il était différent de cela, et lorsqu'ils l'ont fait et ont dit des choses qui semblaient subversives et remettaient en question la domination romaine. Mais pour l'essentiel, l'une des choses que nous devons faire, lorsque nous pensons au christianisme du 1er siècle, est cette image que nous avons que dans chaque ville de Rome, il y avait des soldats qui défilaient et ils allaient de maison en maison et traînaient les chrétiens dans la rue et les mettre à mort. Ce n'est tout simplement pas vrai. La plupart des persécutions, comme nous le verrons, ne sont pas venues de Rome. Cela venait d'un niveau local, et c'était plus sporadique, se produisant dans certains endroits. Dans d'autres endroits, encore une fois, Rome ne semblait pas s'en soucier, l'empereur ne semblait pas se soucier beaucoup, du moins au 1er siècle, des chrétiens pour la plupart et les laisser tranquilles. Encore une fois, beaucoup de problèmes provenaient davantage d'un niveau local avec les chrétiens, et non de l'Empire romain. Ainsi, pour l'essentiel, la vie des chrétiens aurait été relativement paisible sous la domination romaine, mais encore une fois, de nombreux problèmes survenaient au niveau local et sporadiquement plus intenses que cela. Mais l'autre chose est que les Juifs et les chrétiens, avec l'expansion de l'Empire romain, les Juifs et les chrétiens et les Juifs en tant que peuple de Dieu, se posaient cette question depuis longtemps. Et c'est-à-dire, sous la domination romaine, que signifie vivre comme le peuple de Dieu? Jusqu'où pouvons-nous nous adapter à la domination romaine tout en conservant notre allégeance à Jésus-Christ? Dans quelle mesure pouvons-nous prêter allégeance à Rome et à César, tout en conservant notre identité distincte en tant que peuple de Dieu? Et nous verrons que cette question apparaîtra également dans un certain nombre de documents du Nouveau Testament. Que signifie être le peuple de Dieu dans un environnement païen sous la domination romaine, où nous croyons que Jésus est Seigneur, mais que César est sur le trône? Qu'est-ce que cela signifie? Comment le peuple de Dieu réagit-il à cela? Dans quelle mesure est-ce que je maintiens mon identité en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien, tout en vivant ma vie sous la domination romaine? Ce sera donc une question cruciale qui reviendra à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Très bien, encore une fois, il y a encore beaucoup à dire et cela pourrait évidemment être complété de manière beaucoup plus détaillée, mais j'ai essayé de peindre avec des coups de pinceau très larges, un peu politiquement, ce qui se passait qui a conduit à l'événement. Nouveau Testament. Une chose que vous pouvez voir, c'est que le peuple de Dieu a vécu sous l'oppression étrangère. Le peuple de Dieu pour qui Dieu avait promis qu'un fils de David régnerait sur lui, que Dieu leur donnerait un royaume, que Dieu serait leur roi et que le roi siégerait sur le trône. Dieu ferait une alliance avec eux. Maintenant, ils découvrent qu'il n'y a pas de roi sur le trône et qu'il n'y a pas de fils de David. Vous souvenez-vous de la promesse faite à David dans l'Ancien Testament, l'alliance avec David? Il n'y a pas de fils de David sur le trône. Le temple a maintenant été détruit et pillé. Il y a une influence étrangère partout où ils regardent, et alors qu'est-ce que cela dit sur les promesses de Dieu? Qu'est-ce que cela dit de nous en tant que peuple de Dieu? Et donc, ils sont continuellement aux prises avec cette question d'identité et vivent leur vie dans le contexte de la domination étrangère, de l'oppression et de l'influence païenne. Que signifie vivre comme le peuple de Dieu quand il semble que les promesses de Dieu ne se réalisent pas? En fait, les promesses de Dieu semblent être contredites par la situation politique actuelle du premier siècle. Et alors, ils se demandent où sont les promesses de Dieu et que signifie être le peuple de Dieu vivant dans ce genre de situation. D'autres questions? Dans quelle section de Blackboard les notes et le programme se trouvent sous le contenu? Je les ai mis hier soir et quelque chose s'est passé. Je ne sais pas quoi. Les notes ne sont pas apparues. Je ne sais pas comment ils n'y sont pas arrivés, mais je viens de vérifier avant de venir en classe et les notes sont sur Blackboard sous contenu.